Il y a en Cisjordanie actuellement 250 colonies qui sont toutes illégales du point de vue du droit international. Je veux dire à la fois du point de vue du Conseil de sécurité des Nations Unies, dont les résolutions interdisent la colonisation, mais aussi des conventions de Genève qui interdisent toute modification du statu quo sur le terrain et donc le transfert d'une population occupante vers un territoire occupé. Alors, la différence entre les 150 légales et les 100 illégales du point de vue du gouvernement israélien, c'est tout simplement que les 100 illégales, qu'on appelle des avant-postes, n'ont pas été légalisées par les autorités israéliennes. Et c'est tout le débat autour de la loi qui est actuellement en discussion à la Knesset, le Parlement israélien.
Une loi pour justement légaliser toutes ces avant-postes dont vous parlez.
Voilà, mais qui, si vous voulez, va au-delà de la légalisation des avant-postes, puisqu'en fait, l'idée, c'est de légaliser toute colonie construite, y compris sur des terres privées palestiniennes. Ce qui est évidemment interdit, y compris du point de vue de la loi israélienne. Donc ça revient de fait à une annexion d'une partie non négligeable de la Cisjordanie, puisque vous avez aujourd'hui une surface d'environ 50% de la Cisjordanie qui est occupée par les colonies légales selon Israël et illégales selon Israël.
Est-ce qu'avec cette loi, on peut dire que le gouvernement passe d'une politique de laisser-faire à une politique d'encouragement ?
Il y a toujours eu une politique d'encouragement depuis 1967. C'est-à-dire au moment où Israël s'est emparé, grâce à la guerre dite des six jours, de la Cisjordanie, de Jérusalem-Est et de la bande de Gaza, puis aussi à l'époque du Sinaï égyptien et du Golan syrien, il y a eu une politique volontariste du gouvernement israélien de développer progressivement la colonisation, notamment de la Cisjordanie. Ce qui est nouveau, en l'occurrence, c'est que ça met fin, si cette loi devait être votée par le Parlement, elle ne l'est pas encore, elle est en première lecture, il y a encore deux lectures, et puis surtout derrière, il y a la Cour suprême qui, semble-t-il, n'est pas prête à accepter cette loi, qui la déclarera vraisemblablement anticonstitutionnelle. Donc vous avez, si vous voulez, une loi qui, mettrait fin à l'ambiguïté qui existe depuis 1967, c'est-à-dire est-ce qu'Israël considère les territoires occupés, en l'occurrence la Cisjordanie, comme son territoire ou bien comme le territoire futur d'un État palestinien. Jusqu'ici, même Benjamin Netanyahou disait, en tout cas formellement, qu'il acceptait la perspective des deux États. Si on acceptait cette loi, si donc Naftali Bennett, le leader de l'extrême droite du parti Foyer Juif, l'emportait, puisque c'est lui qui est porteur de cette loi, ce serait en réalité la fin de la perspective des deux États. On irait vers l'annexion et évidemment, du point de vue d'Israël, ça poserait des problèmes très compliqués. Ça accentuerait l'isolement, si vous voulez, d'Israël à l'échelle internationale.
Pour revenir à Amona, comment est-ce que se positionne, évidemment dans la perspective aussi de cette loi, comment se positionne le gouvernement ?
Je vais vous dire franchement mon opinion, c'est vraiment du théâtre. Parce qu'il s'agit d'une toute petite colonie, qui a 40 familles. Ce qu'on leur propose, c'est simplement de se déplacer de 150 à 160 mètres pour bénéficier d'un autre terrain qui, lui, n'est plus un terrain saisi aux Palestiniens, qui était une propriété privée palestinienne. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de drame. Le drame, c'est simplement qu'il y a, à l'intérieur de la majorité qu'a voulu Benjamin Netanyahou, parce que peut-être qu'aujourd'hui, il le regrette, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est lui qui a voulu les élections de 2015 et c'est lui qui a voulu renforcer considérablement la droite de sa majorité et exclure de la coalition gouvernementale les partis centristes qui étaient là jusqu'à présent. Donc on a une bataille interne à la majorité avec d'un côté Benjamin Netanyahou qui essaye de tourner autour du pot pour éviter à la fois de perdre l'électorat des colons, mais sans non plus se mettre à dos la partie, je dirais, si elle existe, raisonnable de sa majorité. Et puis Naftali Bennett qui a évidemment l'ambition un jour de succéder à Netanyahou et qui essaye de rassembler le maximum de forces autour de lui. L'effet d'aubaine pour Naftali Bennett, c'est l'élection de Donald Trump, puisque on a déjà entendu des paroles de Trump lui-même et de ses proches disant qu'après tout, la colonisation n'était pas vraiment illégale et qu'on pouvait imaginer l'annexion de tout ou partie de la Cisjordanie. Et ce n'est pas le nouvel ambassadeur qui vient d'être nommé, ambassadeur américain en Israël, qui dira le contraire, puisque c'est quelqu'un qui est très proche du mouvement des colons.
Et qui a déjà dit qu'il allait s'installer dans la capitale, évidemment, je cite, Jérusalem.
Absolument, mais ça, si vous voulez, ça fait partie des contradictions de la politique américaine. À la fois, les Américains votent les textes qui refusent l'annexion de Jérusalem-Est, encore récemment d'ailleurs, et en même temps, ils ont décidé, au niveau du Congrès, de transférer leur ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, transfert qui ne s'est jamais produit. Il faudrait dire d'ailleurs que si l'ambassade américaine était transférée à Jérusalem, elle y serait bien seule puisqu'il n'y en a aucune autre.
Du coup, après 8 ans de relations quand même crispées entre Barack Obama et Benjamin Netanyahou, on peut dire que l'arrivée de Donald Trump pourrait changer la donne.
Personnellement, je pense qu'il faut être extrêmement prudent, au moins jusqu'au 21 janvier, c'est-à-dire jusqu'à l'intronisation officielle de Donald Trump. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments très contradictoires, ou en tout cas très confus. Il y a la nomination, par exemple, de cet ambassadeur. Ça, c'est très important, parce que c'est un choix qui a évidemment du sens. Ce serait la première fois qu'un ambassadeur américain serait directement lié personnellement au mouvement des colons. Mais il y a aussi un certain nombre de rumeurs, de discours. On est vraiment dans une période assez confuse, je crois, et il faut éviter de faire des analyses définitives dans une période aussi difficile. Ce qui est vrai, vous avez raison, c'est que la tendance générale serait de toute évidence au rapprochement entre Israël et les États-Unis après une longue période de mandat de Barack Obama où évidemment non seulement les deux hommes s'entendaient très mal, c'est le moins qu'on puisse dire, mais les relations entre les États-Unis et Israël étaient tout à fait mauvaises. Pas au sens où les États-Unis auraient cessé d'aider Israël, au contraire, ils l'ont rarement autant aidé que sous Obama, mais disons que du point de vue de la vision stratégique, de la possibilité d'un règlement pacifique du conflit, il n'y avait vraiment pas accord. Là, on aura, semble-t-il, un accord un peu plus fort dans le sens des positions israéliennes.
C'est ça, il y a la défaveur des négociations de paix avec les Palestiniens ?
Je le crois. Si vous voulez, on sent que la direction palestinienne est désespérée de ce qu'elle peut obtenir de son partenaire israélien. Et c'est la raison pour laquelle elle s'est tournée depuis 3-4 ans vers la scène internationale, vers les Nations Unies, avec d'ailleurs des succès non négligeables, puisque l'État de Palestine a été admis à l'UNESCO, à l'ONU, à la Cour pénale internationale. Il y a, disons, un mouvement de reconnaissance et de soutien à l'État de Palestine qui, au moins sur le plan diplomatique, n'est pas négligeable. De là, le traduire en acte, il faudrait évidemment créer un certain nombre de rapports de force qui n'existent pas. Or, sans ces rapports de force, on ne peut pas imaginer Benjamin Netanyahou, a fortiori les éléments d'extrême droite de sa coalition, aller vers des compromis qui soient conformes au droit international.
Finalement, 50 ans après la guerre des Six Jours, donc le début de la colonisation, qu'est-ce qu'a gagné ou perdu Israël avec cette stratégie du grignotage ?
C'est clair que ce qu'on a appelé processus de paix, il s'est maintenant résumé à un processus de colonisation. On a aujourd'hui 600 à 650 000 colons en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Et il y a une occupation du terrain. Je vous donnais tout à l'heure le chiffre de plus de 50% du territoire de Cisjordanie sous le contrôle direct des colons. Le bilan, c'est celui-là. Je vous rappelle cette formule de Henry Kissinger, interrogé sur la nature du processus de paix, et il disait le processus de paix, ça consiste à pédaler le plus lentement possible, mais sans que le vélo tombe. Ben voilà, le vélo est tombé et ça fait longtemps qu'il est tombé.
Pour en revenir juste à Amona, on se souvient de l'évacuation des colonies de Gaza en 2005, puis de celle d'Amona en 2006. Qu'est-ce qui se passe quand de l'armée israélienne s'en prend à des colons ? Pourquoi est-ce que c'est un problème et est-ce qu'il y a un changement de mentalité par rapport à ça ?
Je crois qu'on a, je vous l'ai dit tout à l'heure, une espèce de théâtre parce que chacun sait qu'il n'y a pas d'enjeu fondamental à déplacer 40 familles sur 150 mètres. Simplement, la volonté des acteurs d'en faire du théâtre et du théâtre de propagande, c'est ça qui rend les choses difficiles. Je vous rappelle quand même que le grand drame qui nous avait été annoncé au moment du transfert des colons de Gaza ne s'était jamais produit. C'est-à-dire il y a eu des scènes extrêmement émouvantes, mais pas de violence. Et je ne crois pas d'ailleurs qu'il y aura de violence. La violence, elle est plutôt dans le développement dans les colonies de Cisjordanie de mouvements de jeunesse. On les appelle les jeunes des collines, on les appelle le prix à payer, pour les Palestiniens évidemment, et ce sont des groupes qui, eux, sont extrêmement violents, mais qui, jusqu'à présent, s'en prennent plus volontiers aux Palestiniens qu'à l'armée israélienne ou à la police israélienne venue les déloger. Nous avons eu, dans les dernières années, des drames épouvantables. Je pense en particulier à cette famille palestinienne qui a été brûlée vive dans sa maison et dont seul un enfant et rescapé. Il y a là une espèce de montée en puissance de la violence des colons, et notamment des jeunes colons, qui peut, à un moment donné, c'est vrai, se tourner aussi vers l'armée israélienne si elle venait à leur poser problème.
Et là, est-ce qu'il y a un encadrement de la part du gouvernement? Est-ce qu'on est vigilant à ce qu'ils ne franchissent pas la ligne? Est-ce qu'on les punit?
Il y a visiblement une volonté d'essayer de maintenir un certain calme. Je crois que Benjamin Netanyahou est très soucieux des répercussions internationales de cette affaire, nationales bien sûr, dans la concurrence qu'il oppose à Bennett, mais aussi au plan international. L'idée que Israël se retrouve, comme ça a été le cas dans les derniers votes à l'ONU, avec 4 ou 5 pays, dont il est vrai les États-Unis, hein, le défendant contre l'immense majorité de la communauté internationale, c'est là, disons, une situation qui le préoccupe. Donc il y a, je crois, de son côté, en tout cas, une volonté de calmer le jeu. Je ne suis pas sûr que ce soit aussi le cas de l'extrême droite présente au sein du gouvernement. Donc on peut s'attendre à tout dans les jours qui viennent, puisque théoriquement, la Cour suprême a donné le 25 décembre de cette année, donc dans quelques jours, comme terme définitif pour le déplacement des colons d'Amona et la destruction de leur maison.
Du coup, ça voudrait dire que ces groupes, ces jeunes dont vous parlez, pourraient à ce moment-là réagir?
C'est tout à fait possible. C'est une chose qu'il faut prendre en compte. Il y a des phénomènes qui ont été tolérés pendant longtemps par les autorités israéliennes et qui sont devenus plus ou moins hors contrôle. L'affaire dont je vous parlais, de l'incendie de la famille, de la maison de la famille d'Awabcha, mais d'autres affaires, l'affaire aussi de Jérusalem avec ce jeune palestinien brûlé vif pendant l'été 2014. On a toute une série de signes que le processus n'est plus du tout sous contrôle.